Europe 1, en balade avec Bernard-Henri Lévy. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est Bernard-Henri Lévy qui nous emmène en balade aujourd'hui dans son nouveau livre, Ce virus qui rend fou. Il s'en prend à la panique qui s'est emparée de la planète, au confinement généralisé, à la dictature sanitaire, au repli sur soi, au collapsologue et à tout ce que l'on fait dire à ce virus qui ne dit pourtant rien. Il nous a donné rendez-vous rue Linné dans le quartier latin.
Frédéric Taddeï se balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1.
Bonjour Bernard-Henri Lévy, vous savez qu'on est juste devant l'immeuble où vivait Georges Perec là. Vous saviez, rue Linné ?
Eh ben, je ne le savais pas, non. Je ne le savais pas et je suis bien content parce que pour moi, mon Perec, bien sûr, mais L'homme qui dort, livre absolument majeur de ma vie.
Ah oui ? Qui est devenu un film de Jacques Doyon, je me souviens.
Exact, ouais. Exact. Mais le livre était encore mieux.
Et, je crois qu'on et a... pourquoi majeur ? Vous ne devez pas dormir beaucoup, en plus.
Non, mais là, c'était pas l'histoire d'un homme qui dort. Là, c'était l'histoire d'un homme qui décide de ne plus sortir. C'est l'histoire d'un homme qui décide que le monde autour de lui ne vaut pas d'être vécu. Et c'était très beau. Et c'était une tentation pour un adolescent des années comme ça, 66-67, de penser ça.
C'est le contraire de ce que vous venez d'écrire dans ce virus
exact,
qui rend le fou.
Exactement.
Puisque vous dites qu'il faut absolument sortir parce que rester confiné chez soi, c'est pas une vie.
Oui, parce que le confinement qui consiste à se regarder le nombril et à faire des exercices de narcissisme, je trouve ça grotesque. En revanche, Georges Perec, c'est autre chose. C'est aller au fond des abîmes métaphysiques du néant et des espaces infinis.
On vient de passer devant la DELC.
Ah bah vous connaissez ? Ah bah évidemment, oui, je connais ça. C'est mes nouveaux amis, ça, bien sûr, je connais.
C'est quoi, une sorte de syndicat des libraires ?
Non, c'est pas un syndicat des libraires, c'est une association fondée par des éditeurs, je crois fondée par Jérôme Lindon autrefois, et qui aide la librairie indépendante. Et en effet,
là, ils ont du boulot.
Ils ont du boulot, oui, parce que les libraires indépendants se portent mal, parce qu'on a fait l'erreur pendant cette période là de ne pas vouloir considérer que les livres étaient aussi un produit de première nécessité. Et les droits d'auteur du virus qui rend fou, comme vous le savez, vont intégralement à la DELC.
Ouais. Et comment vous l'expliquez ? Ça en dit long sur l'État, quand même. L'État qui a effectivement décidé, la bureaucratie, qui sait, on ne saura jamais qui a décidé que les livres n'étaient pas des produits de première nécessité.
Ah, c'est à peu près tout le monde. Là pour le coup, ce n'est pas l'État, parce que c'est plus compliqué que ça. L'État, c'est-à-dire Bruno Le Maire, a dit à un moment donné, et si on autorisait les libraires à ouvrir ? Et c'est une partie des libraires qui l'a emporté, qui a dit surtout pas, on ne veut pas se choper le Covid. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que dans cette affaire, il y a eu l'État et il y a eu l'opinion. Vous voyez ?
Oui.
En tout cas là, c'est très clair. Il y a eu, vous retrouverez, il y a eu le ministre de l'économie qui a envisagé d'être en gros fidèle au mot d'ordre de Peggy que ce dont les hommes ont vraiment besoin, c'est du pain et des livres. Et il y a des libraires qui ont dit non. Mais il y en a d'autres qui se sont rebellés, des libraires, qui ont organisé des click and collect, qui ont pris leur vélo moteur, qui ont sillonné les routes, les rues de leur ville pour livrer des livres.
C'est vrai que vous êtes un bon marcheur. Hein. Je me dis ça en même temps. On est en train de marcher.
Oui.
Vous m'aviez prévenu que vous marchiez vite. Je croyais marcher vite, moi.
Et marcher en parlant, bah oui, mais je vous ai... ça c'est le deal, là, je
ça
vous
fait,
ai dit.
Ça fait longtemps que vous marchez vite comme ça ?
Ah ben j'ai toujours marché assez vite, oui. Ouais.
Votre femme s'en plaint pas, en général, les femmes détestent les hommes qui marchent vite.
Oui, mais en général, je marche seul. Hein ? Rêverie du promeneur solitaire, vous connaissez ?
Oui, j'ai entendu parler, oui.
Voilà, et j'écris en marchant, je pense en marchant, et... ou en nageant, mais... qu'on ne peut pas toujours nager, je marche.
Vous vous élevez contre la dictature sanitaire qui nous a été infligée, dont on n'est pas complètement sorti d'ailleurs. Ça donne quand même l'expérience de la dictature, ce qu'on a vécu.
Ça donne l'expérience surtout de notre assentiment possible à la dictature. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on a vu, c'est que dans le monde entier, les gens étaient à peu près d'accord, si c'était au nom de la santé, de rester chez eux, d'avoir des équipes d'anges gardiens qui surveillent leur smartphone et qui listent leurs contacts, et à peu près d'accord pour, pour être traités comme des animaux en batterie. Ça en dit beaucoup sur la servitude volontaire.
En même temps, c'était une dictature que l'on savait provisoire. Ça n'aurait pas été la même chose.
Bien sûr, mais la dictature était évidemment... D'abord, c'était pas non plus une dictature, mais le plaisir que les gens ont pris à cette période...
C'est lui, ça qui vous déplaît.
Il m'est arrivé de me dire qu'il pourrait durer. Il m'est arrivé d'entendre chez certains que c'est dommage que ça ne dure pas davantage. Il y a des gens autour de nous, y compris dans nos entourages, qui disent mais quel dommage, j'aurais bien prolongé. Paris était tellement beau quand il n'y avait pas d'humains. Il y a des gens qui ont pensé ça, que Paris, la nuit, c'était plus beau quand il n'y avait pas ce mauvais virus qui était l'humain.
On continue d'en parler avec Bernard-Henri Lévy dans un instant.
Frédéric Taddeï se balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1.
Nous sommes avec Bernard-Henri Lévy. On descend la rue Monge dans le quartier latin. On arrive au Collège de France, c'est lui à notre gauche. Vous avez...
On arrive surtout là où ma petite Justine est née.
Votre fille donc.
Ma fille, voilà. J'ai habité quand elle est née avec ma première épouse au 26 rue Monge. Donc on ne doit pas être très loin, on est de l'autre côté. Mais...
Elle est quasiment avec vue sur le Collège de France.
Ben oui, voilà, il m'est resté la vue. Mais non, mais c'est vrai, je blague, mais c'est une des rares institutions que je respecte vraiment. Je parle institution de para-universitaire, parce que je n'ai pas un grand respect pour l'université, je n'ai pas un grand respect pour tout ça. Collège de France, c'est quand même un lieu de vraie excellence, parce que c'est un lieu marginal.
Et parce que c'est démocratique, au fond, tout le monde peut aller assister au cours.
Un, tout le monde peut aller assister, et deux, les professeurs sont choisis selon des critères qui ne sont pas les critères de la bureaucratie académique traditionnelle.
Donc, c'est la cooptation, ce sont les professeurs du Collège de France. Voilà. Et alors, c'est drôle, d'ailleurs, quand on se présente, on dit, voilà, je voudrais faire un cours sur tel sujet.
Oui.
Et puis, si vous êtes choisi,
oui,
ils vous donnent la chair
exactement,
du sujet
exactement
que vous voulez traiter.
Oui, donc je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Et c'est vrai que autant la Sorbonne, ça ne me plaît pas, autant on va y passer. Enfin, ça ne me plaît pas. On me proposerait d'être professeur à la Sorbonne. Vraiment, ça me dirait rien. Je serais accepté pour quelques leçons au Collège de France. Ça, franchement, ce serait même un rêve.
Vous n'avez jamais été professeur, vous ?
Si, j'ai été professeur. J'ai été professeur dans ma toute première jeunesse, deux fois. D'abord, j'ai été professeur d'épistémologie à l'université de Strasbourg, à l'université Louis Pasteur à Strasbourg. Épistémologie, ce qui ramène, pardon, c'est pas de la pub, mais aussi c'est de la pub, c'est pour la DELC. Ça nous ramène au virus qui rend fou, parce que j'ai donc enseigné l'histoire des sciences à la fac de Strasbourg, et puis j'ai enseigné à l'école normale supérieure un cours d'agrégatif en 60, je sais plus, 73, 74 peut-être, quelque chose comme ça.
Vous veniez presque d'en sortir à ce moment-là.
Je venais d'en sortir, j'étais un gamin. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Strasbourg, à la faculté Louis Pasteur, j'étais tellement jeune que j'étais jeune et deux, je faisais jeune, que les étudiants ont cru que c'était un gag. Et il y a eu une sorte de monôme, quasiment pour me sortir, quoi. Ils croyaient que j'étais l'un des leurs, qui se faisait passer pour le prof. Ben non, j'étais le prof.
Mais vous étiez vraiment prof ? Vous étiez chargé de cours ?
Ah non, j'étais
chargé
prof. De TD, j'étais
maître de conférence.
J'étais déjà agrégé. Ah non, je n'étais pas professeur. Non, j'étais chargé de cours, bien
voilà,
sûr.
C'est ça.
Bien sûr, j'étais enseignant, voilà.
Voilà. Chargé c'est ce qu'on dit. Quand on présente les intellectuels, on dit professeur à la Sorbonne ou
non.
Qui enseigne à la Sorbonne.
J'étais chargé de cours d'épistémologie à l'université Louis Pasteur, mais j'avais, je vous dis, 22, 23 ans ou quoi, 24 peut-être.
Europe 1, 11h30, en balade avec Bernard-Henri Lévy, Frédéric Taddeï.
Vous en voulez beaucoup, non pas aux médecins, mais au pouvoir qu'on a donné aux médecins pendant le confinement.
Oui, bah, pas aux médecins d'abord. D'abord, il y a les médecins qui faisaient leur travail et qui l'ont fait au péril de leur vie et qui nous ont qui ont soigné nos proches et qui nous ont sauvés. Ceux-là, je les bénis. Mais en revanche, les médecins qui ont littéralement occupé les plateaux de BFM...
seulement de BFM, de toutes les chaînes.
Et de toutes les chaînes, en continu, en non-stop, en boucle. Ça, oui, ça, j'ai trouvé ça franchement insupportable. insupportable parce qu'ils disaient tous la même chose, insupportable parce que quand ils ne disaient pas la même chose, c'était pour se disputer sur le cas du professeur Raoult, et insupportable parce qu'ils avaient une suffisance et par conséquent un abus d'autorité qui était ce que je déteste le plus, quoi.
Mais à la télévision, aime bien les experts. Pendant les guerres, c'est les experts militaires. Pendant les épidémies, c'est les experts sanitaires, on va dire.
Eh ben oui, mais
quand il y a un attentat, c'est les experts en sécurité.
Oui. Et dans ce cas-là, il y a une nouvelle manie maintenant, c'est que le monde arrête de tourner.
C'est-à-dire à chaque fois, oui.
Ben oui, c'est-à-dire que on fait comme si, tiens, la statue de Ronsard.
Juste devant le Collège de France.
Oui, juste devant le Collège de France. Parce que le problème, c'est que dans ces crises-là, on fait comme si on était entré dans un univers parallèle, un univers de science-fiction où plus rien d'autre n'existe. Alors, il n'y avait plus de guerre en Syrie, il n'y avait plus de guerre en Ukraine, il n'y avait plus de guerre au Yémen, il n'y avait plus de terrorisme, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que des experts médicaux qui succédaient aux experts médicaux et qui disaient du mal du professeur Raoult.
Et le journal durait deux fois plus de temps que d'habitude.
Ah ben, le journal durait toute la nuit, sauf qu'il ne disait plus rien. C'était assez extraordinaire. Et moi, je rêverais. Non, mais sérieusement, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que je voudrais qu'on
passe devant le square Michel Foucault, dont vous parlez beaucoup dans ce livre.
Ah, ben voilà. Ben écoutez, vous voyez comme quoi il y a des bonnes nouvelles. Je ne savais pas que c'était rebaptisé square Michel Foucault. Oui. Ben ça, c'est une très bonne chose. Parce que tous les derniers cours de Michel Foucault sur le pouvoir médical se sont passés au Collège de France.
On fait une pause. On se retrouve juste après avec Bernard-Henri Lévy dans la rue des Écoles.
Frédéric Taddeï se balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1.
Toujours avec Bernard-Henri Lévy qui vient de publier « Ce virus qui rend fou » aux éditions Grasset. Nous arpentons la rue des Écoles à toute allure. Vous êtes tellement pressé quand vous marchez. Quand on s'arrête à un feu, vous continuez de marcher.
Je ne suis pas pressé, mais attendez, il y a quelque chose qui est plus intéressant que la rue des Écoles. Vous permettez qu'on traverse.
Je vous en prie.
Que je prenne une seconde la direction des opérations.
Mais évidemment.
Regardez, place Paul Painlevé.
Ouais.
Ça, c'est intéressant. C'est là où il y avait autrefois les éditions Maspero.
Ah oui.
Vous êtes trop jeune, mais...
Oh, moi, je l'ai connu.
Oui, voilà. Et moi, mon premier livre, mon livre sur le Bangladesh, est paru aux éditions Maspero. Place Paul Painlevé. Alors attendez, c'était pas au 5 parce que c'est le vieux campeur, ça peut pas être ça. C'était pas le 3 parce que ça, c'est un salon de massage.
Non, ça devait être celui qui fait l'angle.
Ça devait être celui qui fait l'angle, oui, voilà. Et ben voyez, ça, voyez, pour un homme de ma génération, ça, c'est un lieu de mémoire tout à fait fondamental. Ouais. Probablement le 1, place Paul Painlevé. Ben, il reste une sorte de vitrine. Et ça, c'était un lieu magique.
Comment ça s'est intitulé ? C'est ressorti sous le titre « Les Indes Rouges ».
Oui.
Mais le titre original, c'était quoi ? C'était un titre très...
C'était un titre un peu bêta. C'était « Bangladesh nationaliste dans la Révolution ». Et c'est un titre que j'aimais pas. Et à la première occasion, c'est-à-dire quand il est passé en livre de poche, quand les gens ont commencé à me connaître un peu, tout ça, là, comme je suis par ailleurs un admirateur de Jules Verne, qui a écrit, comme vous savez, les Indes Noires, je l'ai rebaptisé les Indes Rouges et je suis plus à l'aise. C'est très difficile de vivre avec un livre dont on n'aime pas le titre.
C'est sûr, surtout quand c'est le premier.
Et quand c'est le premier, encore pire, même s'il n'a pas marché. Parce qu'évidemment, c'est un worst-seller absolu, mais ça ne fait rien. Je me sens bien depuis qu'il s'appelle les Indes Rouges.
Dans votre livre, vous dites que le roi est nu, même s'il est médecin.
Oui.
C'est sûr, évidemment. Et tous les rois sont nus, au fond.
Oui.
Même les dictateurs,
oui.
Ceux que vous avez poursuivis de votre acrimonie, que ce soit Milosevic, Saddam Hussein, Kadhafi, ou aujourd'hui Bachar el-Assad, ils sont nus.
Ou Vladimir Poutine, oui.
Oui, que vous n'aimez pas non plus.
Bah, que j'aime pas non plus. Non, il faut le savoir. Il faut savoir qu'ils ont peur, d'abord. C'est un des très beaux passages de Caput de Malaparte. Je crois qu'il décrit un dirigeant nazi, peut-être Himmler, je ne suis pas sûr, au sauna. Et il a cette découverte, il fait cette observation qui est pour lui une illumination. C'est que, mettons, Himmler a peur. Et il dit, si cet homme est si méchant, c'est parce qu'il a peur. Il le voit nu et il comprend ça, qu'il a peur.
Mais il aurait pu dire exactement la même chose d'un gentil ou de quelqu'un qui était dans le camp des bons.
Oui.
Et on l'a vu là avec la pandémie.
Mais peut-être
je ne sais pas si nos dirigeants ont eu peur physiquement. Mais ils ont paniqué. C'est d'ailleurs ce que vous leur reprochez.
Mais peut-être que les méchants ont encore plus peur que les gentils. C'est pas une hypothèse à exclure. Peut-être qu'ils ont une peur phobique encore plus grande et qu'ils sont si méchants que parce qu'ils ont terriblement peur. Et que c'est pour ça qu'ils stigmatisent, que c'est pour ça qu'ils haïssent, c'est pour ça qu'ils forcent le ton, c'est pour ça qu'ils font les matamores. Allez savoir.
Et encore une fois, on pourrait dire ça exactement de la même manière de chef d'État élu tel que vous en avez connu, et vous en avez beaucoup fréquenté. Vous n'aviez pas ce sentiment-là, non seulement qu'ils étaient nus, mais qu'ils étaient humains, qu'ils avaient peut-être peur, qu'ils étaient inquiets, que c'était aussi pour ça
totalement.
Qu'ils élevaient la voix, qu'ils étaient...
Totalement. Mais il y a un avantage en démocratie, et c'est même ce qui les singularise, c'est que c'est admis. On sait que les chefs d'État sont humains, on sait qu'ils sont faillibles, on sait qu'ils ont peur, et on sait qu'on peut en changer. Et ils ne cherchent pas à faire croire le contraire. Chef d'État totalitaire ou autoritaire, ceux-là, ben non, ils font comme s'ils n'avaient jamais peur et comme s'ils étaient surhumains. Bonjour, monsieur.
Au fond, une des choses que vous n'avez pas digérées pendant le confinement, et depuis, j'imagine que ça n'a pas dû se calmer, c'est l'idée qu'ont beaucoup véhiculé un certain nombre de nos compatriotes, c'est que le virus n'avait pas que du mauvais, qu'il portait un message, que l'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'on allait dans le mur, qu'il fallait changer de cap. Le fait qu'on ait fait parler ce virus.
Ah, ça, je trouve ça dégueulasse. Franchement, je trouve ça... D'abord, je trouve ça très bête, parce que le peu d'épistémologie, justement, que je sais, à travers mes lectures de Michel Foucault, de Canguilhem, de Bachelard et de quelques autres, fait que je vois bien l'ineptie qu'il y a à s'imaginer qu'un virus serait porteur d'un message. Un virus, c'est juste de la non-vie, c'est du néant, c'est pas peu pas un message.
D'ailleurs, ça n'existe pas tant qu'on ne l'a pas identifié.
Identifié aussi, etc.
Il faut que l'homme s'en mêle pour que le virus...
Mais surtout, cette façon de dire qu'une pandémie comme celle-là, qui était gravissime, cette façon de dire qu'elle n'avait pas que du mauvais et qu'on pouvait en s'appuyant sur ces aspects pas trop mauvais, changer de société, fabriquer un monde d'après, etc. Ça, j'ai trouvé ça infect. Et une telle injure faite aux victimes et à celles et ceux qui les soignaient.
Henri Lévy, je crois que vous n'écoutez plus de musique depuis que vous avez eu l'âge de 22 ans, hein, c'est ce que vous avez souvent dit.
Bien renseigné.
Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va écouter pendant cette balade Et je me suis dit, on va écouter des chansons d'avant vos 22 ans ou de l'année de vos 22 ans. Vous avez peut-être entendu celle-là. Et comme on marche très très vite, eh bien écoutons Os Grillos par Claudette Suarez. C'est rapide, c'est court.
Frédéric Taddeï, en balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1.
Se você quer grilo, tem. Se quiser rinha, tem. E se quiser também, até cabana tem. Uma lareira tem. Um violão também. Um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, vem. Um automóvel tem. Cabeleireiro tem. E vira gente, vem. Copacabana tem. Piriba à noite tem. E quando a lua vem, jantar no iate bem. Eu faço o que você quiser. Se você for minha até morrer, mulher. Se você quer grilo, tem. Se quiser rio, tem. E se quiser também, até cabana tem. Uma lareira tem. Um violão também. Um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, tem. Um automóvel tem. Cabeleireiro tem. E vira gente bem. Copacabana tem. Biriba noite tem. E quando a lua vem, jantar no iate bem. Eu faço o que você quiser. Se você for minha até morrer, mulher. Se você quer grilo, tem. Se quiser rio, tem. E se quiser também, até cabana tem. Uma lareira tem. Um violão também. Um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia, tem. Um automóvel tem. Cabeleireiro tem. E vira gente, tem. Copacabana tem. Biriba noite tem. E quando a noite vem.
Voilà, c'était Os Grillos, chanté par Claudette Suarez, quand Bernard-Henri Lévy avait 22 ans. Vous en souvenez ?
Très vaguement, oui, j'ai entendu ça, mais alors c'est vraiment dans la préhistoire.
Hein. Ah oui, quand on n'aime plus la musique, on n'aime plus la musique.
Je suis tellement vieux.
À tout de suite.
Europe 1, 11h30, en balade avec Bernard-Henri Lévy. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Bernard-Henri Lévy. On longe... Le jardin du Luxembourg, il trotte à toute allure.
Bah, vous êtes en train de me faire faire une des choses que je fais jamais, qui est presque un pèlerinage familial, parce que vous m'avez amené tout à l'heure au 26 rue Monge, ouais. Et là, vous ne le faites pas exprès, mais vous m'amenez au 9 rue Médicis, où j'ai habité très très longtemps et où est née, non pas ma fille Justine, qui est née au 26 rue Monge, mais mon fils Antonin, qui est né, enfin qui a passé son âge bébé au 9 rue Médicis. Vous voyez ? Vous ne saviez pas ça ?
Non, je ne savais pas.
Eh bien voilà, hasard objectif. Comme disaient les surréalistes, édité ici, chez Feu José Corti.
Oui, le libraire.
Ils étaient vendus là, édités et vendus, voilà.
Vous y pensez, vous, au monde d'après ? J'ai pas l'impression, hein, ça vous énerve quand on parle du monde d'après, ou même du monde d'avant.
Mais j'y pense, mais si, attendez, moi j'y pense tout le temps au monde d'après. Et j'y pense depuis que je suis en âge de réfléchir et parfois d'agir. C'est mon obsession, mais le monde d'après, le monde d'après au quotidien, le monde d'après en vrai, pas le monde d'après comme une espèce d'expérience révolutionnaire, apocalyptique, cataclysmique, où on traiterait les humains comme les animaux de laboratoire. Moi, le monde d'après, je crois très sincèrement que je m'en occupe, je m'en soucie tous les jours de la vie, quand je vais faire un reportage pour Match à Mogadiscio, quand je vais avec suivre les Peshmerga dans leur chemin de croix et de guerre contre Daesh, et ainsi de suite. Je passe mon temps à me soucier du monde d'après. Mais pas comme ces intellectuels en chambre qui, eux, ont décidé d'appuyer sur le bouton pause, enfin, qui ont rêvé d'appuyer ou de s'appuyer sur ceux qui appuyaient sur le bouton pause de la mondialisation pour d'un seul coup, par le miracle d'une espèce de fée électricité à l'envers, voir advenir leur divine surprise. Non, moi, je suis un adepte. Je suis un intellectuel juif adepte du Tikkun Olam. Et le Tikkun Olam, ça veut dire la réparation du monde. Et la réparation du monde, ça veut dire bosser tous les jours que le bon Dieu fait au monde d'après. Pas le grand soir.
C'est même la vocation de l'être humain, hein, dans la religion juive.
Voilà, exactement.
Le monde étant imparfait, il faut le réparer, le laisser meilleur qu'on l'avait trouvé en entrant.
La religion juive dit là-dessus deux choses, enfin, certains textes. Il y a notamment un texte très beau, qui est disponible aux éditions Verdier, de Haïm de Volozine, qui s'appelle « L'âme de la vie ». Et là, il a une hypothèse extraordinaire. Il dit que Dieu a créé le monde, évidemment imparfait, mais il dit qu'il y a pire encore. C'est que Dieu a créé aussi la possibilité de la décréation du monde. Haïm de Volozine explique que ce qui menace vraiment, ce qui est vraiment en train de se passer, c'est que le monde se décrée. Il est tout le temps en train de se décréer. Et que pour éviter qu'il ne se décrée, il n'y a qu'une manière. C'est soit de prier, soit d'étudier, soit de parler des paroles de sagesse. Et alors, dit Haïm de Volozine, les prières ou les paroles des hommes sont comme des mains qui soutiennent les poutres du monde. Voilà, ça. Et ça, moi, c'est vrai que je me sens plus près de cette sagesse-là, où on essaie d'empêcher que les poutres ne s'effondrent, que de ceux qui nous disent « on va tout bloquer, tout arrêter, et périssent les humains concrets. »
Europe 1, en balade avec Bernard-Henri Lévy, Frédéric Taddeï.
On est en train de traverser à toute allure le jardin du Luxembourg, moins vite néanmoins que les joggeurs.
Alors accélérons.
Vous voulez les battre ?
Non, mais c'est vrai qu'on marche un peu lentement.
Le monde d'après qu'on nous promet depuis la crise du coronavirus, c'est pas tellement votre tasse de thé. Un monde plus sobre, plus écolo, plus égalitaire, plus solidaire, relocalisé, ça vous semble pas tellement désirable non plus.
Plus égalitaire, oui. Plus solidaire, oui. Bien sûr. Plus solidaire, c'est même le sens de ce pourquoi j'essaie de me battre imparfaitement depuis toujours, mais plus sobre et plus, je sais pas ce que vous avez dit, ça non, je suis pas...
Sobre, plus écolo.
Plus écolo, c'est compliqué.
Relocaliser,
il faudrait savoir. Relocaliser, c'est le discours de Donald Trump aussi. C'est le discours des radicaux écolos français qui disent il faut manger français, consommer français, produire français, faire des circuits courts. Mais enfin, c'est le discours de Donald Trump, America first, le coton américain plutôt que le coton des Indiens, et ainsi de suite. Il y a là une drôle d'alliance. Non, moi, je ne suis pas pour... Je suis...
Quand vous dites plus solidaire, oui.
Oui.
En même temps, tout votre livre, quand vous emportez contre le confinement, qui oui. est une mesure de santé publique,
oui.
À la limite, les pays qui ont choisi le confinement, les pays comme le nôtre, c'est qu'ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de tests.
C'est possible, oui. Oui, oui,
donc,
c'est
ils ont confiné. Quand vous emportez contre le confinement, vous emportez contre... la nécessité de rester chez soi pour ne pas contaminer les autres. C'est ce qu'on appelle la solidarité en cas d'épidémie.
Non, je ne m'emporte pas contre ça. Je m'emporte contre le fait que, quelques heures après qu'on ait applaudi les médecins au balcon, on s'est mis à épier le voisin qui allait une fois de trop promener son chien. Je m'insurge dans le livre.
Contre la délation.
Oui, contre la délation. Contre le papy qui est allé deux fois au supermarché acheter du papier cul. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et on submerge les commissariats d'appel. C'est contre ça que je m'insurge. Et ça, c'est pas de la solidarité. Et les soignants, il y a eu solidarité avec les soignants. Mais enfin, il y a eu aussi, on en a moins parlé, sans doute parce qu'il y en avait moins, mais il y a eu aussi les gens qui écrivent au syndic de l'immeuble pour dire « il y a un soignant dans mon immeuble, à l'étage au-dessus ou à l'étage en dessous, et j'ai peur pour mes enfants ». Il y a eu les deux.
Mais il y a des vagues de délation à chaque fois qu'on traverse une crise particulièrement aiguë. Dès qu'il y a eu des attentats terroristes, il y en a eu aussi.
Oui, ben voilà.
Et il y a eu des lois, là aussi, restreignant nos libertés, pour les mêmes raisons.
Oui.
Ceux qui nous incitent à la peur, on le sait bien, au fond, veulent un gouvernement plus autoritaire.
Oui, ben je n'aime pas ce désir d'un gouvernement plus autoritaire et j'aime encore moins la délation, quel qu'en soit le... Enfin, j'aime aussi peu la délation, quel qu'en soit le prétexte.
Même en cas d'attentat terroriste. Parce que là, les Français, au contraire, trouvent ça tout à fait normal.
Oui, mais je pense que l'appel à la délation, l'habitude de la délation, c'est quelque chose de terrible. C'est le... Alors évidemment, il y a un dilemme. C'est des histoires classiques. C'est des vieux dilemmes philosophiques. Si je sais qu'il y a quelqu'un à côté de chez moi en train de préparer un attentat, est-ce que je le dénonce ou pas?
Oui, ou quelqu'un qui a séquestré des petites filles.
Voilà.
La question se pose de la même manière.
Voilà. Là, probablement, la réponse est oui. Mais quand on parle de la délation, quand on parle des corbeaux, on parle d'autre chose. On parle de lettres anonymes. On parle...
Oui, c'est un peu la même chose. Vous le savez bien, au fond, que c'est la même chose.
C'est pas tout à fait... Non, c'est pas la même chose.
Ah bon ?
Une lettre anonyme et dire en son propre nom « J'ai été témoin d'une agression raciste dans un train », etc., c'est autre chose. Ça, non, c'est pas de la délation. Bien sûr,
oui,
que non.
C'est vrai, on s'engage d'une certaine manière.
Bien sûr.
On donne son nom, on s'engage.
Bien sûr.
On arrive boulevard Saint-Germain, on fait une pause, on se retrouve de l'autre côté avec Bernard-Henri Lévy.
Frédéric Taddeï se balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1.
Nous voilà rue de l'Ancienne Comédie avec Bernard-Henri Lévy. On passe devant le Procope.
Oui.
Les anciens cafés parisiens. Vous êtes content de revoir les terrasses s'animer, tous ces gens. Et j'imagine aussi, vous êtes peut-être même rassuré d'en voir d'aussi nombreux qui ne portent pas de masque, qui ne respectent pas les barrières sociales, qui se serrent la main. Parce qu'au fond, tous ces signes-là vous déplaisent. Vous ne voulez pas d'un monde comme ça.
Je ne veux pas d'un monde comme ça durablement. Non, bien sûr que non. J'aime pas la ville vide. Donc je suis content de voir la ville de nouveau animée. Deux, j'aime pas voir des hommes et des femmes masqués. J'aime voir leur visage. Principe lévinassien élémentaire.
Et occidental, on a toujours aimé avoir une vue.
Et occidental, voilà. Oui, mais enfin, il y a toute une philosophie du visage chez Lévinas qui dit qu'un visage, c'est plus qu'un visage. C'est l'affleurement de l'infini. Et puis, j'aime le contact vrai avec les humains. Là, je sais qu'on est en train maintenant de nous expliquer que le télé-enseignement, que le télé-travail, que tout ça va remplacer les anciennes pratiques de sociabilité. C'est possible, mais si c'est ça le monde d'après, je crois qu'il sera moins respirable que le monde d'avant.
Vous êtes un grand voyageur, Bernard-Henri Lévy. Je crois que vous êtes reparti en reportage pour Paris Match récemment. Vous êtes allé en Grèce, comment ça s'est passé?
Ah ben ça s'est passé, c'était croquignolesque, oui. Enfin, je ne suis pas allé exactement en Grèce, je suis allé à Lesbos, parce que je voulais faire un reportage sur le camp de Moria, le camp de réfugiés de Moria, qui sont alors vraiment l'enfer sur Terre. Et pour ça, en effet, je suis passé par Athènes. Et là, j'ai été mis en quarantaine. Heureusement, pas 14 jours, j'ai été mis en quarantaine 24 heures. Mais alors, j'ai touché du doigt ce que ça pouvait être, la vie pendant 14 jours. Moi, ça n'a duré que 24 heures dans un hôtel où vous n'aviez pas le droit de descendre sous peine d'une amende considérable, ou si vous alliez voir la réceptionniste pour lui dire que vous aviez besoin d'un sachet de thé, vous vous faisiez traiter comme un chien, et où, à l'heure des repas, vous aviez un sbire qui vous donnait un coup de poing de fou dans la porte, vous ouvriez, vous trouviez un sac en plastique vaguement noué, avec une pitance à peine convenable, que vous ramassiez vous-même sans avoir risqué le contact avec la personne de service. Donc j'ai vu ça. Et puis, mais c'est pas l'important. L'important, c'est ce que vous lirez dans Match, j'espère, jeudi. Et c'est ce que j'ai essayé de rapporter de la vie de ces gens à qui on peut pas dire rentrez chez vous parce qu'ils n'ont pas de chez vous.
J'ai l'impression quand même que vous avez toujours voulu vous émanciper de la loi et de l'ordre. Au fond, ne respectez que les règles dont vous êtes l'auteur. Vous deviez admirer Belmondo dans Un bout de souffle ou dans Pierrot le fou, j'imagine, quand vous étiez jeune ou adolescent.
Alors, je vais être totalement franc. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je vais l'être. C'est vrai que j'ai admiré Belmondo dans Un bout de souffle et dans Pierrot le fou. C'est vrai que j'ai eu cette tentation-là et que je l'ai peut-être encore, mais je me soigne. Vraiment, c'est-à-dire bien sûr que...
Mais vous ne soignez pas dans ce livre. Dans ce livre, vous le dites haut et fort d'une certaine manière, même si vous ne le formulez pas de cette façon.
Je le dis haut et fort, mais je prends soin dans le livre, et c'est ça que j'appelle se soigner. Je prends soin de dire qu'en même temps, j'ai respecté la loi, que je n'ai pas quitté Paris, que j'ai rempli mon attestation Covid, mais je dis juste dans le livre, je dis aussi que... Avoir eu à remplir une attestation Covid avec une case, promener son animal de compagnie qu'on pouvait cocher, mais qu'on n'avait pas le droit d'aller se promener en amoureux sur le canal de l'Ourcq, là je pensais quand même que le monde marchait sur la tête.
Et ce qu'il y a de dur quand on est pendant le confinement, c'est qu'on ne peut pas être héroïque. Au fond, on est condamné à une posture d'humiliation.
Ce qu'il y a de dur dans la période de confinement, c'est déjà le mot de confinement, qui est un mot absolument atroce. Et par quelques bouts que vous le preniez, c'est un mot nauséabond. Et l'une des choses qui m'a le plus surpris, il y a la docilité, il y a la servitude volontaire, il y a tout ça. Mais c'est la manière dont les gens, ça, réfléchissez à ça, se sont emparés de ce mot. On aurait dû ce mot, avec civisme, avec tout ce qu'on voudra, mais le prendre avec des pincettes. Or, les gens s'en sont gargarisés. Et franchement,
c'est ça les nouveaux mots, les gestes barrières, les distances sociales.
Ils s'en sont gargarisés. Comment ça va ton confinement? T'es confiné où? Alors qu'est-ce que tu fais pour ton confinement? Alors que, enfin, je sais pas, moi je me rappelle dans mon enfance, quand ma maman me disait que ma chambre était confinée, ça veut dire que j'avais fumé en cachette ou dans mon adolescence, que je l'avais pas aéré et que j'avais pas fait mon lit. Vous voyez, c'est ça. Eh bien non, les gens ont été contents avec ce mot de confinement. Enfin, les gens, beaucoup de gens ont été contents avec ce mot de confinement. Souvent des artistes, souvent des gens qui ont tenu des journaux de confinement, qui nous ont expliqué l'émerveillement que ça leur procurait, la descente au-dedans de soi, les vertiges de l'intériorité, la découverte de leurs secrets enfouis, se retrouver soi-même. Mais quelle horreur!
Si de là elle est en prison, autant en profiter pour ne pas la subir. On emporte les livres qu'on n'a pas lus et on espère y prendre un certain plaisir.
Est-ce que vous êtes sûr que nous avons vraiment lu les livres que nous n'avons pas lus? J'en suis pas si certain. Voilà, oui.
À propos de livres qu'on n'a pas lus, parlons de musique que vous n'avez pas écoutée, puisqu'on n'avait pas écouté depuis l'âge de 22 ans.
Assassin, c'est beau ce que tu as fait en Libye,
Ça, vous n'avez pas que des amis.
Vous avez c'est ça le problème de marcher avec pas dans Paris, c'est qu'il y a ce risque-là. Hein.
Quand vous aviez 22 ans, il y avait Kim Weston qui avait sorti la plus belle version de The Windmills of Your Mind, la chanson de Michel Legrand, interprétée pour le film L'affaire Thomas Crown, interprétée par Steve McQueen. Et Thomas Crown aussi voulait vivre au-dessus des lois. Vous vous en souvenez peut-être dans ce film.
Oui, mais moi je ne veux pas vivre au-dessus des lois. Moi je respecte, je m'emploie à respecter la loi.
Eh bien, écoutons quand même Kim Weston.
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like the carousel that's turning, running rings around the moon. Like the clock whose hands are sweeping past the minutes of its fate,
and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like the tunnel that you follow to the tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like the door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like the clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over in the autumn of goodbyes, for a moment you could not recall the color of his eyes. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
C'était Kim Weston qui chantait The Windmills of Your Mind, à une époque où Bernard Lévy écoutait encore de la musique.
Europe 1, 11h30, en balade avec Bernard-Henri Lévy. Frédéric Taddeï.
Bernard-Henri Lévy, nous voilà sur la place Saint-Germain-des-Prés. Juste derrière nous, il y a la Une, la librairie.
Oui.
Enfin, qui était la Une, qui était la librairie. Il y a l'écume des pages, un peu à côté du Café de Flore. Vous avez la nostalgie de ce quartier, du temps où il y avait des éditeurs, des librairies?
Naturellement. J'ai plus que la nostalgie. Je crois que c'est vraiment un... On a beau dire, mais c'est un Paris englouti, quoi, le Paris... Ça a duré jusqu'à ma génération, je pense. Mais le Paris des lettristes, le Paris des situationnistes, le Paris...
Et tout simplement, des Paris, mouvements, carrément.
Tout simplement, le Paris des libraires. Le Paris, par exemple, là, à la place d'Emporio Armani, il y avait le drugstore. Et le drugstore, c'était extraordinaire, parce que quand vous descendiez au sous-sol, il y avait l'une des meilleures librairies de Paris. Et il y avait le seul marchand de journaux où vous trouviez les journaux, les quotidiens du lendemain à 2h20 du matin. Ça fermait à 2h. À 2h20, vous aviez les journaux. Ben ça, c'est impensable. Maintenant, vous avez de la fringue. Et là, à la place de Louis Vuitton, vous aviez la grande Une, la vraie, sur deux étages, avec des expériences littéraires extraordinaires au coin de la rue Saint-Benoît. C'était, voilà, j'ai la nostalgie de ça un peu, oui.
Et le Café de Flore, je vous y ai vu beaucoup à une époque, vous n'y allez plus?
Si, toujours autant. Le Café de Flore, lui, heureusement, est toujours là, avec l'excellent Miroslav, qui est un... C'est très rare, d'ailleurs, quelqu'un avec qui je sois à ce point en désaccord et à ce point copain. Parce qu'il est... Pendant la guerre de Bosnie, il était, je crois, pro-serbe, et vous savez que... Pour moi, la question bosniaque était une...
Ah oui, vous vouliez même qu'on aille faire la guerre là-bas, hein, si je me souviens bien.
Non, je voulais qu'on mette hors d'état de nuire ceux qui faisaient la guerre, ce qui était très différent.
Enfin, il aurait fallu faire que la France, je me souviens que Mitterrand, non, vous avez dit, jamais je ne ferai la guerre à la
Serbie. C'est une erreur de Mitterrand, parce qu'il fallait faire ce qu'on a fini par faire, et c'est Chirac qui l'a fait, c'est Chirac et Clinton.
De bombarder.
C'est-à-dire de bombarder pendant 48 heures avec sans perte de civils ou quasiment, les batteries...
C'est non, pas non. Ce que disent les Serbes. Quand vous allez à Belgrade, ce que vous devez peut-être pas faire, moi je suis
allé... Je parle pas de Belgrade, là je parle de Sarajevo. Belgrade, c'est autre chose.
Mais en 99, sous Chirac, on a bombardé Belgrade.
Ça, c'est 5 ans plus tard. Moi, je vous parle du siège de Sarajevo. Le siège de Sarajevo, il y avait des batteries serbes qui encerclaient la ville, qui la bombardaient jour après jour, et je suis de ceux qui, depuis le premier instant, disaient, il s'agit pas d'envoyer les soldats au sol, il s'agit pas d'emmener l'Occident dans une aventure militaire extraordinaire, il s'agit de neutraliser ces batteries serbes. C'est-à-dire des mecs, batteries serbes, c'était quoi? C'était des petits gars de Banja Luka qui venaient avec la glacière et le réchaud, et puis une petite chaise longue, qui installaient leur obusier, et puis qui entre deux rasades de bière tirées et se faisaient un carton. Voilà, ben ça c'était facile à arrêter, et la preuve que c'était facile, c'est qu'on a fini par le faire, et qu'il n'y a pas eu besoin, comme le menaçait Mitterrand, comme le craignait Mitterrand, d'envoyer je ne sais combien de soldats au sol.
Très souvent, et la question s'est posée avec la Libye, et aujourd'hui encore, beaucoup vous reprochent, on l'a entendu tout à l'heure, quelqu'un vous reprochait la Libye, oui. Au fond. Et c'est au fond une question que vous posez dans ce livre, c'est quand le remède est pire que le mal.
Oui.
C'est exactement le problème que vous posez dans ce virus qui rend fou.
Oui, oui.
Vous nous dites qu'en fait, le remède, à savoir le confinement, le fait d'être tout arrêté, ça va peut-être avoir des conséquences, oui. Y compris plus mortelles,
oui.
Pour beaucoup, à cause des chômages, des faillites,
oui.
Des guerres qu'on a oubliées.
Oui,
des...
oui, oui.
Et au fond, très souvent, ceux qui s'opposent aux interventions militaires, et à vous, par la même occasion, dans certains cas, disent, mais au fond, ce sera pire après. C'est ce qu'on a dit de l'Irak, après l'invasion par les Américains. C'était pire après, ça a donné Daesh.
Oui.
On le dit pour la Libye aujourd'hui.
Oui.
On aurait peut-être pu le dire, à l'époque, pour l'ex-Yougoslavie.
Oui.
Enfin, Mitterrand l'aurait peut-être dit.
Oui. J'observe d'abord que vous êtes essoufflé. Vous voulez qu'on ralentisse?
Avant vous.
Non, non, parce que non, moi, ça va bien. Bon,
C'était l'émotion.
Parfait. Deuxièmement, je vous fais observer que cette question-là, je me la pose moi-même tout le temps. Je me la suis posée au moment de la guerre d'Irak. J'étais contre. J'étais contre la guerre américaine en Irak qui a détrôné Saddam Hussein parce que je pense, pour cette raison-là, je pensais que le mal que l'on allait faire risquait d'être plus grand que le mal que l'on allait empêcher. En revanche, pour la Bosnie, il n'y a pas le moindre doute, le mal qu'on a empêché était infiniment plus grand que le mal que l'on provoquait. Et c'est la même chose pour la Libye, pardon, mais j'entends, je vois bien la propagande, la contre-information. Je pense que le mal que l'on a empêché, c'est-à-dire les rivières de sang dans Benghazi, la perpétuation d'une des pires dictatures du XXe siècle, ce mal-là, il était plus grand que celui qu'engendre le chaos actuel. Ça, je le pense, et je suis toujours, pardon, cher Tadei, mais extrêmement fier de la petite contribution que j'ai pu apporter à cette affaire.
On se retrouve juste après les infos avec Bernard-Henri Lévy.
Frédéric Tadei se balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Bernard-Henri Lévy. Frédéric Tadei.
Nous sommes en balade avec Bernard-Henri Lévy qui publie « Ce virus qui rend fou » aux éditions Grasset. Nous sommes dans la rue des Saints-Pères, pas loin des éditions Grasset d'ailleurs.
Oui, mais on n'est pas loin des éditions Grasset, mais on est surtout en face d'un endroit qui m'est assez cher, qui est le siège de l'ancien magazine littéraire que dirigeait une grande amie qui vient de mourir du Covid et qui s'appelait Nikki Fasquel. Et pour moi, c'est quelqu'un que j'ai aimé énormément, la femme de mon éditeur, Jean-Claude Fasquel. Et c'était un personnage extraordinaire. Alors là, pour le coup, le Paris des lettres, sans elle, ça ne sera jamais plus le Paris des lettres. Elle était une telle incarnation que c'en est un crève-cœur. Mais alors là, devant l'immeuble où nous sommes en train de passer, je me souviens, c'est un de mes premiers souvenirs littéraires. Je sortais de chez Grasset. Je venais de signer mon premier contrat avec Jean-Claude Fasquel pour un livre qui allait devenir La barbarie visage humain. Je sautais de joie. Il n'y avait pas de portable à l'époque. S'il y en avait eu un, j'aurais appelé ma femme pour lui dire « Ça y est, je viens de signer un contrat ». Et puis, je vois, il faisait très beau, on était en septembre, et je vois sur le pas de cette porte une femme d'une très grande beauté qui avait un t-shirt blanc, qui rentrait probablement de vacances, qui était allée de soleil, et qui était magnifique. Et puis, je lui dis, j'avais besoin d'un témoin à qui dire, voilà, je viens de signer mon premier contrat. Alors je lui dis, et puis je commence probablement à lui conter fleurette, comme on disait au Moyen-Âge. Et puis je lui demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et elle me dit, je suis la femme de... Je m'appelle Nicky Fasquelle, je dirige un magazine littéraire et mon mari est l'homme avec qui vous venez signer votre premier contrat. J'ai été mais absolument tétanisé, douche froide totale, et je lui ai dit au revoir avec beaucoup de courtoisie et nous sommes restés amis pour la vie. Et pour moi d'ailleurs, le Covid, c'est aussi le deuil inconsolable de cette dame. Inconsolable parce que sans vrais obsèques, parce que sans... avec ces réglementations pour le coup absurdes qui faisaient que, comme vous savez, les humains ont été privés de ce moment secret, sacré dans la vie de chacun, qui est le moment de la mort et de la célébration de cette mort.
On passe d'ailleurs devant la maison où vécu Sonia Riquel.
Oui.
J'ai beaucoup aimé, vous aussi, je crois.
Oui, bien sûr. Merveilleuse dame.
Mais pouvait-on ne rien faire ? C'est la question qu'on n'arrête pas de se poser,
non.
Que je me suis posée pendant tout le confinement, exactement comme vous. Est-ce qu'on pouvait ne rien faire, comme en 68, au moment de la grippe de Hong Kong, comme au moment de la grippe espagnole, au fond, quand on sortait de la Première Guerre mondiale, à la place d'Emmanuel Macron, ou de ceux qui l'entouraient, est-ce que vous auriez été prêt à prendre ce risque ?
Non, bien sûr que non.
Trump, Bolsonaro, on voit bien Boris Johnson voulait prendre ce risque et puis il a reculé.
Trump et Bolsonaro sont des irresponsables. Non, mais face à une affaire de ce genre, vous avez deux attitudes extrêmes qu'il faut éviter l'une comme l'autre, si j'ose dire comme la peste. Le déni et le délire. Le déni, c'est Trump et Bolsonaro. Et le délire, c'est le délire hygiéniste des médecins qui venaient nous annoncer tous les soirs à la télé le décompte des morts comme des pitis sinistres.
Et voilà. Qui auraient peut-être aimé que le confinement dure... jusqu'en septembre.
Oui, et le conseil scientifique qui voyait déjà, le professeur Delfrécy, 18 millions de Français, un peu trop âgés, je crois, ou 16.
Non, c'est 17-18 millions quand on compte les personnes âgées et celles qui ont des comorbidités.
Voilà.
Enfin, c'est les populations à risque.
Voilà.
C'est énorme, c'est un tiers des Français.
Donc moi, ce que je dis, la position que j'essaie de défendre dans ce livre, qui me semble être la plus responsable, c'est évidemment ni délire, voilà, ni névrose, ni psychose, si vous préférez. Pour reparler en langue freudienne, comme au début de notre conversation. Vous voyez qu'on a beau marcher vite, je ne perds pas totalement le fil.
Oui. Vous marchez beaucoup dans la journée ?
Écoutez...
Vous gardez ça juste pour moi ?
Non, je marche... J'aime marcher. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'ai pas aimé ce Paris vide dont s'émerveillaient mes concitoyens, le côté...
Pas tous, beaucoup l'ont trouvé. C'est ceux qui ont...
Voilà.
J'allais dire qui ont eu la chance de le traverser, parce qu'au fond, c'était réservé un peu...
Voilà, mais le côté, en effet...
Il était désolé, ce Paris.
Le côté, j'ai vu un daim traverser les Champs-Élysées, j'ai vu une mésange à la fenêtre du voisin. Ça, vraiment, j'ai pas aimé.
Parce que vous aimez pas la nature.
Parce que... Oui, parce que... Non, mais j'aime,
si, si,
j'aime
la nature. Vous n'aimez pas la nature, reconnaissez-le.
Oui, je le reconnais, mais je l'aime, mais je la supporte à la campagne. Mais la ville, qu'est-ce que je vous dise ? La ville vide, c'est la mort. Et pardon d'être très sérieux une seconde, mais j'ai vu des villes vides dans ma vie.
Oui.
Moi, j'ai fait des reportages, et des reportages de guerre, et je sais ce que c'est, en général, une ville vide. C'est une ville terrifiée. Et j'ai pas des bonnes images, et j'ai pas des bons souvenirs de ça. Donc je suis heureux, quand la ville est normale, comme là, de croiser le visage. Parfois des visages aimables, parfois des visages hostiles, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Mais ça m'est égal. J'aime ça. Il y a un livre, pour moi, l'un de mes livres préférés d'Aragon, c'est Le paysan de Paris. J'aime bien cette idée, oui, d'être un paysan de Paris aragonien.
On se retrouve juste après une pause avec Bernard-Henri Lévy.
Frédéric Taddeï se balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1.
Nous sommes rue de la Chaise avec Bernard-Henri Lévy. Alors, pas loin d'ici, je me souviens, je crois que c'est la première fois que je vous ai vu. J'étais jeune, et vous aussi, c'était au Twickenham.
Oui.
Vous étiez là tout le temps avec un gros téléphone.
Oui, un gros téléphone, parce qu'à l'époque, c'était des vrais téléphones. C'était pas ces espèces de vibrateurs
C'était un luxe d'avoir un gros téléphone à soi, dans un café.
Voilà, c'était un téléphone du café, mais en effet, comme j'étais probablement un des bons clients... et que j'y passais mes journées, on m'avait installé très gentiment un téléphone, enfin pour quelques bons, pour quelques clients, mais je devais être de ceux-là.
Bah, vous étiez une vedette déjà, puisque je vous avais reconnu.
Oui, voilà. Donc j'avais mon téléphone à la table au fond, et le truc à l'âme, c'était bizarre parce que c'est un café qui aura sa place dans
l'histoire littéraire,
qui aura une ligne et demie dans l'histoire littéraire, parce que c'était le café de Lucien Baudard, c'était le café de Maurice Clavel, c'était un café où François Mauriac a dû venir signer peut-être ses derniers contrats avec Françoise Verny, je ne sais plus. Donc, et en même temps, c'était l'endroit extérieurement et intérieurement le moins légendaire qui soit. C'était un pub anglais, un peu tarte, franchement, un peu kitsch, avec des box.
Ce qu'il y avait de plus moderne, c'était votre téléphone.
Oui. Mais en même temps, voilà, c'était un vrai café littéraire. Et ça fonctionnait comme ça. C'est un mélange, je l'ai dit. Attendez, pour être très précis, c'était à la fois un café d'écrivain et c'est l'époque tout de même où s'installaient les premières boutiques de vêtements et de chaussures du quartier. Alors, il y avait aussi les jolies femmes, voilà, qui venaient là aussi. Donc c'était ce mélange d'écrivains et de vendeuses de ces magasins. Donc c'était un mélange agréable.
Dans votre dernier livre, Bernard et Lévy, vous êtes très sévère avec l'extrême gauche qui vous reprochait de vouloir faire parler le virus, de vouloir l'utiliser, l'extrême gauche anti-mondialiste, on va dire, avec les écologistes anti-productivistes.
Oui, mais je suis aussi sévère avec l'extrême droite qui dit la même chose.
Et avec l'extrême droite, qui veut se replier derrière ses frontières. Mais là où vous n'êtes peut-être pas. Vous n'avez pas désigné comme adversaire ce que vous auriez pu faire, parce qu'après tout, vous écrivez un livre un peu d'anarchiste libertaire.
Bonjour, monsieur.
De dandy aristocratique, vous auriez pu être plus sévère avec l'État. Et je ne parle pas seulement de l'État français, mais les États ont adoré cette pandémie.
Oui.
Tout à coup, ils se sont mis à tout contrôler, à pouvoir faire ce qu'aucun dictateur n'avait même imaginé, nous interdire de sortir de chez nous.
D'abord, attendez, l'extrême droite, je la traite de ce point de vue-là exactement comme l'extrême gauche, parce qu'ils avaient le même message.
Oui.
L'extrême droite disait, non, pas seulement, l'extrême droite disait aussi, c'est une punition, c'est une pénitence, c'est une divine surprise. Elle disait, comme l'extrême gauche, on a trop joui, on a trop saccagé la planète, on a trop cultivé je ne sais pas quoi, les grandeurs de ce monde, et on est frappé par là où on a péché. Premièrement. Deuxièmement, sévère avec l'État, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un côté surveillant général et un côté infantilisation des Français et des citoyens en général qui m'a insupporté.
Mais vous ne le dites pas tellement dans le livre.
Ben, je ne le dis pas tellement. Si, je le dis, mais si je ne le dis pas davantage, c'est parce qu'en effet, je fais quand même attention. Je sais qu'il y a en Europe une vraie menace qui est la menace populiste. La menace souverainiste, la menace de ceux qui voudraient justement nous barricader derrière nos frontières. Et je sais que le rempart contre cette menace-là, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 2, il y en a un. C'est le président de la République actuel. Donc, je ne tomberai jamais dans le TSM, le tout sauf Macron, dont s'enchante toute une partie des gens aujourd'hui, sans réfléchir aux conséquences. Voilà, c'est peut-être pour ça.
J'ai dit que dans cette émission, on n'écouterait que des chansons que vous auriez pu entendre à l'époque, vous écoutiez encore de la musique, c'est-à-dire avant vos 22 ans.
Oui.
Il y en a une qui est très pop française. J'imagine que vous auriez pu écouter ça en mettant de l'encens, puis avoir les cheveux longs, vous rêviez des Indes rouges.
Oui.
C'était « Je t'apprendrai à faire la bourre ». Vous vous souvenez pas de cette chanson?
Non. Non. J'ai dû apprendre tout seul.
Frédéric Taddeï, en balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1.
Dans notre nocturne, sous les étoiles, poussière d'or, la douceur de nos corps. Soleil. faire l'amour. Je t'apprendrai à faire l'amour. L'aurore nous trouve enfouis. Le sommeil qui rapproche. On l'a sait comme si filoche. Le rouet du
C'était Nato qui chantait « Je t'apprendrai à faire l'amour ». Il n'a pas fait carrière, je ne sais pas ce qui est devenu Nato.
Je ne sais pas non plus.
Mais ça, c'est toute une époque. Vous, oui. vous étiez baba cool, vous étiez un peu hippisant, même.
Ah oui, ah oui. Bah oui, oui. Bah,
mais hippie, vrai hippie ou hippie plastique?
Non, ça dépend, entre les deux. Plutôt vrai hippie, quand même, à un moment donné, il me semble, oui.
On se retrouve juste après une pause avec un vrai hippie. Nous terminons notre balade avec Bernard et Lévy dans la rue de l'Université. On se dirige vers les bureaux de la Règle du Jeu. Sa revue, je disais l'État, vous n'avez pas été très sévère avec l'État dans ce livre. Livre dans lequel vous êtes sévère avec beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Hein.
Oui.
Vous n'avez pas non plus été très sévère avec les médias, notamment avec les chaînes de télévision.
Pas tant que ça, parce qu'après tout,
si vous reprochez tant de choses à ceux qui auraient joui de la pandémie, les médias y ont pris un certain plaisir.
Je suis sévère avec les médias qui nous ont fait vivre, dis-je, dans un univers parallèle où, comme par enchantement, Daesh avait disparu, la guerre de Syrie n'existait plus, Poutine n'avançait plus en Ukraine, et ainsi de suite. J'ai été très sévère.
Et en plus, on a beaucoup moralisé nos comportements, nous ont sans arrêt rappelés à l'ordre.
La grande responsabilité des médias est de, je vous dis, de nous avoir fait vivre dans ce monde faux, où brusquement plus rien d'autre n'existait que le Covid du matin au soir, avec ses émissions en boucle qui n'en finissaient pas. Voilà, comme disait un de mes copains, le journal durait 10 fois plus long, sauf qu'il ne s'y passait plus rien.
Et c'est fou quand même, on a réalisé à quel point on se croyait rebelle et on n'était pas tant que ça. Au fond, on était plus obéissant, plus docile qu'on ne le pensait, mais au fond, c'est la peur. C'est la peur et c'est les médecins.
Les Gaulois réfractaires, les fameux Gaulois réfractaires, on ne les a pas beaucoup vus. Hein. Ils étaient aux abris. Mais il n'y a pas seulement...
Vous avez respecté la loi. Vous avez été comme tout le monde.
Mais j'ai respecté la loi, bien sûr. Par principe, j'ai décidé, il y a une cinquantaine d'années, de respecter la loi. Voilà.
Ah ouais.
Oui.
Et pas d'être au-dessus, comme je le croyais, ou à côté.
Voilà.
Ou...
Non, non, j'ai décidé ça. J'ai décidé qu'il le fallait. Et j'ai décidé qu'en plus, dès lors que j'écrivais des livres, etc., j'avais une responsabilité, un peu, peut-être encore un petit peu...
Vous trouvez qu'il y a, mais là je parle sérieusement, vous trouvez qu'on a une responsabilité dès l'instant où on écrit des livres, en fait on doit être un exemple, ou en tout cas en accord avec ses livres.
Être en accord avec son écrit, ça déjà ça me paraît le minimum, oui. C'est pas toujours facile d'ailleurs, hein, d'être totalement en accord. Mais en tout cas, il faut s'y essayer. Et ça, vraiment, je le fais. Je m'y essaye tout le temps. Si je m'emmerde aujourd'hui, si je me fatigue, à l'âge que j'ai, avec la vie que je pourrais avoir, si je me fatigue à aller à Mogadiscio, à retourner au Bangladesh, à aller à Lesbos ou à aller sur les lignes de front en Ukraine, c'est parce que, malgré la fatigue qui gagne, malgré la lassitude qui parfois est au bord de l'emporter, je pense que c'est important de mettre sa vie en accord avec ses idées. Et que prêcher les droits de l'homme à la règle du jeu où nous arrivons, c'est, tu sais bien, mais enfin les prêcher avec ses pieds, ses mains et son corps, c'est encore mieux.
Vous voulez en plus être à la hauteur de Malco, le héros de SAS. Je suis sûr que vous avez adoré SAS.
J'ai adoré SAS, voilà. Mais je veux...
Et Malco, je suis sûr que c'est un modèle quelque part pour vous. Et quand vous partez à Mogadiscio, il y a un peu Malco qui...
Non, il y a un peu... Je veux être à la hauteur. Mon vrai héros, c'est pas Malco, c'est... Il s'appelait André Lévy, c'était mon père. Oui, c'était mon père. Engagé à 17 ans et demi ou à 18 ans, à presque 18 ans, dans les brigades internationales, engagé volontaire contre le nazisme, héros et décoré par le général Diego Brosset, héros de la France libre à Monte Cassino. Et s'il y a quelqu'un dont j'ai l'impression qu'il me regarde un peu et dont j'aimerais qu'il soit fier de moi, c'est lui. Il s'appelle André Lévy et il est mort il y a 25 ans maintenant.
On arrive devant...
Ah ben là, vous arrivez à mon bureau, là.
Oui, devant la... On est rue Sébastien
Bottin, arrivez,
donc à deux pas de chez Gallimard.
Et alors, ce qui est extraordinaire...
Qui n'est pas votre éditeur.
Ça, personne ne veut le croire. Parce que ce qui est formidable, c'est que la rue s'est toujours appelée rue Sébastien Bottin. Et puis, il y a quelques années, il y a eu une décision du Conseil municipal de Paris de débaptiser la rue qui s'est appelée... Du coup, maintenant, elle s'appelle rue Gaston Gallimard. Ouais. D'accord ? Sauf un immeuble... qui continue de s'appeler rue Sébastien Bottin. Regardez, c'est assez
vôtre.
Extraordinaire. C'est le mien. Et alors, je soupçonne que mes camarades et collègues de chez Gallimard sont persuadés
que, vous avez intrigué.
Que c'est moi qui suis responsable de cette irrégularité, c'est-à-dire le fait que cet unique immeuble soit le seul de la rue à garder le nom Sébastien Bottin.
C'est drôle.
Or, c'est drôle, oui.
Il y a la plaque rue Gaston Gallimard à gauche, il y a celle rue Sébastien Bottin à droite et voilà. Le 9, uniquement le 9.
Il y a uniquement le 9, c'est le... Alors, tout le monde pense, je crois, que j'y suis pour quelque chose. Or, vraiment, je vous promets, je n'y suis pour rien.
Merci, Bernard-Henri Lévy, de nous avoir emmenés en balade aussi rapidement. Je crois que j'ai deux gouttes de sueur qui parlent sur la tempe, ce qui ne m'arrive jamais.
Mais oui, c'est drôle que vous soyez... Et qu'est-ce que ça aurait été si c'est vous qui aviez parlé?
Mais j'ai dû marcher à votre vitesse.
Vous avez un peu parlé quand même, oui. D'accord, mais oui. Non, moi, ça va.
Je rappelle évidemment que votre dernier livre, « Ce virus qui rend fou », est paru aux éditions Grasset. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Frédéric Taddeï se balade avec Bernard-Henri Lévy sur Europe 1.